Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, et les débats évidemment sont des commentaires consacrés évidemment aux résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle, analyse de ces résultats, consignes de vote, énormément de sujets à évoquer avec vous, avec Frédéric Dhabi. Bonjour Frédéric.
Bonjour Valérie.
Directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre dernier livre qui porte très bien son nom, La Fracture, aux éditions Les Arènes. Régis de Castelnau, vous êtes avocat.
Bonjour Valérie.
Bonjour à vous. Vue du blog, c'est votre vue du blog. Vous avez un blog. Vue du droit, vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Il faudra d'ailleurs que Michel Onfray revoie un peu ses analyses prédictives, hein, puisqu'il avait dit, Emmanuel Macron on peut à peine sortir dans la rue, c'est n'importe quoi de dire qu'il est à 28%.
Oui. Il y a beaucoup de choses que doit revoir Michel Onfray. Je pense.
Oui, absolument. mais on va en parler. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur Sud Radio. Vous êtes en forme ?
En super forme. J'ai l'impression d'être en 2017, j'ai gagné 5 ans.
Voilà, et c'est pas tout à fait pareil. Hein.
Non.
Et Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur, votre chaîne Les Indécis,
bonjour
chaîne
Valérie.
De débat politique. Bonjour à vous et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous avez publié de La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Donc nous allons commenter ces résultats. Vous le savez, sur Sud Radio, la parole 0826 300 300. Vous pouvez vous exprimer, nous dire ce que vous pensez de ces résultats. Évidemment, on est là. Et puis Gilles Ganzmann qui est là. Pas de médias aujourd'hui, mais
une question du jour.
Mais une question du jour et puis un zapping.
On peut faire un peu de médias en disant que la soirée a été très regardée.
Ah oui,
avec
j'ai pas regardé ce
7 millions 4 sur TF1, qui n'appartient pas à un oligarque. On pourra dire ça, monsieur Poulain, parce que les chaînes d'oligarques, j'ai vu son tweet, ne font pas beaucoup d'audience. BFM, CNews, on a l'impression que c'est des grosses audiences, mais face à des mastodontes comme TF1 ou France Télévisions, c'est assez peu finalement BFM.
Avec les visiteurs après, quand même.
Mais beaucoup plus tard que prévu.
Oui. C'est un petit clin d'œil que je fais à Alexis Poulain qui a
dit. Mais Bouygues, non mais attendez, TF1 c'est Bouygues, c'est un oligarque comme un autre.
Oui,
hein.
Enfin.
Mais Alexis, soyez un petit peu sérieux.
Bah oui,
ça vous fera du bien.
Et alors, donc 7 millions et 4 millions sur France 3, alors sur France Télévisions et sur France 2. Par contre, c'est un vrai échec pour France Télévisions qui s'attendait à beaucoup plus d'audience à sa soirée, surtout que ensuite, il y avait le film de TF1. Donc là, ils rattrapent un peu avec des tweets sur les cibles. Ouais. Mais globalement, c'est vraiment TF1 qui a remporté.
Très mauvaise soirée hein, sur France Télévisions. Ouais, franchement, c'était un peu raté, le format, les allers-retours dans le hall.
C'était irregardable. Ça allait à gauche, à droite.
L'arrivée,
ça allait partout.
Même pour les invités, je trouve que c'était pas du tout... mis en avant, enfin, on retient rien, tout était coupé tout le temps.
Je vais être très méchant, mais ce que j'ai retrouvé sur France 2, que je vois souvent à la fin de chaque émission politique, c'est cette capacité à s'autocongratuler, féliciter du travail qui a été fait. Parfois, la modestie, ça ferait du bien.
Oui. Beaucoup et même de forme, mais pas de fond.
Oui, c'est ça, mais la modestie, parce qu'on a reçu Nathalie Saint-Cricq qui était formidable vendredi, qui nous avait annoncé 3 jours de répétition. C'est une soirée électorale, c'est pas un show, quoi. On se fout de la réalité virtuelle, c'est pas Miss France. Mais même TF1, l'annonce des résultats, on avait l'impression que c'était... mais quand ils ont annoncé TF1, il y avait une musique un peu à la Koh-Lanta. J'ai trouvé ça un peu ridicule, mais très bon plateau et très bon plateau également sur LCI. J'ai trouvé que la qualité des débats sur LCI était...
Par rapport aux chaînes infos, je dis pas ça parce que non, mais en plus, c'est mon collègue ami Jérôme Fonca qui était beau. Beaucoup, moi j'y étais que 22h à 23h. C'est vrai que LCI, par rapport au sensationnalisme, notamment de CNews, est quand même quelque chose de très très sérieux.
Bon.
La question du jour, Valérie, du coup, je vous ai amené un peu sur les médias hein, pour le petit débat. Êtes-vous satisfait du résultat du premier tour? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez aller voter, réagir. Alors, vous votez en masse pour le moment. Et donc, oui à 5%. Non à 95%.
Aïe, aïe, aïe.
C'était un peu sûr. Vous pouvez continuer à aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio et vous pouvez aller également sur le compte YouTube désormais pour voter.
Mais la meilleure soirée électorale, elle était évidemment sur Sud Radio.
Il faut quand même le dire.
Beaucoup d'invités.
Romain Ben-David, de l'IFOP.
Philippe David.
C'est intéressant d'ailleurs, 5% de satisfaits, 95%, parce que même si le candidat pour lequel on a voté est élu, on n'est pas content. Parce que il y a une espèce de trouble sur la France est complètement éparpillée et on n'est pas content. On se demande ce qui va se passer après. On a très peur de législatives, donc on n'est pas content, même quand son candidat a gagné.
Alors je vois que Le Figaro posait la même question que nous, ou nous avons posé la même question qu'eux. Ils avaient eux près de 200 000 votants et la réponse est non à 65,3%. Ah, c'est donc c'est un peu plus mesuré, mais que les lecteurs du Figaro répondent non à 65%.
Intéressant.
Est tout à fait intéressant, ça va animer nos débats. Mais le zapping, Gilles, ce que vous avez pu retenir de cette soirée hier d'élection.
Il y aura deux zappings maintenant.
Oui. Wow.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
Ah bah il y avait beaucoup de matière, donc je l'ai séparé en deux. Donc il y en a un qui va être un peu factuel sur les déclarations, et l'autre sera sur les débats et les batailles qu'il y a eu dans la deuxième partie à 11h. Il était donc 20h quand est apparu sur les écrans le visage d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Le match retour du classico donc. Emmanuel Macron, dans son discours, a très vite posé les jalons de ces thématiques avec « Je veux une France ».
Je veux une France qui lutte résolument contre le séparatisme islamiste, mais qui, par la laïcité, permet à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte. Et pas une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion, ce n'est pas nous. Je veux une France qui porte des progrès pour chacun, pour nos aînés, pour nos enfants, pour les travailleurs, pour les familles, pour les femmes et notamment les mères seules, pour les précaires. Pas une France de la régression pour tous, ce n'est pas nous.
Ah, voilà, on va à la pêche aux électeurs musulmans. Ah bah oui. On va y revenir évidemment. Moi, j'ai trouvé ce discours pas bon.
Ah, mais pas bon.
Pas bon du tout.
Mais pas bon du tout. Était ennuyeux. Il était pesant. C'était un peu d'autosatisfaction.
On va y revenir. Et je pense que Alexis et notre ami Régis aussi voudront s'exprimer. Tout le monde. Bon, on finit. Je vous ai interrompu, mais c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de réagir.
Ils ont pas mis des petits cœurs, Régis, sur Macron et tout ça.
Non, Régis, il a pas mis les petits cœurs.
Mais on peut aimer Macron et penser ça.
Oui. Et on peut aussi ne pas voter pour lui.
On peut aussi voter pour lui et penser ça.
Allez.
De son côté, Marine Le Pen cherche également à enlever l'étiquette du Rassemblement. Elle s'est dit libérée de tout parti. Elle a aussi présenté ses jalons et ses thématiques pour le deuxième tour.
C'est avec le même sérieux que j'entends sans attendre recoudre les multiples fractures dont souffre une France trop déchirée et qu'aucun pouvoir n'a su jusqu'ici réparer. La fracture sociale, territoriale, institutionnelle, culturel, médical, numérique. Mon projet porte en effet de grandes ambitions pour le pays. Une ambition démocratique avec le référendum d'initiative citoyenne, avec une proportionnelle pour permettre à toutes les opinions politiques de s'exprimer et d'être enfin représentées à l'Assemblée nationale. Une ambition économique et écologique.
Oui. Allez, on continue.
Et puis, finis le podium, Valérie. Ouais.
C'est quoi ce bruit? C'est le téléphone de Sophie.
C'est le téléphone de Sophie, d'ailleurs.
C'est Sophie qui met le bazar.
Exactement. Voilà. Alors, à ça du podium, Valérie, à ça, le poulet d'or des élections, Jean-Luc Mélenchon, ne cachait pas sa déception, même s'il était heureux du chemin parcouru.
La violence de la déception, elle est d'abord en pensant à tout ce qui aurait été entrepris et qui ne le sera pas. Et ceci, plus que le reste me cuit. Ce que je me préparais à faire, ce que je croyais immédiatement apporter demain, les belles équipes dont nous disposons et qui étaient prêtes à se déployer pour assumer toutes les tâches qu'il y avait à assumer. Oui, c'est une déception. Comment se cacher aussi la fierté du travail accompli? Le pôle populaire existe. Si nous n'y étions pas, que resterait-il? Qu'aurions-nous? Rien. Et nous avons construit cette force.
du bon aussi. Hein.
Ouais. Non, non, mais c'est ce que me dit Xavier, un auditeur. Il me dit meilleur discours, celui de Jean-Luc Mélenchon. Très, très, très bon, toujours tribun et très bon discours. Oui.
Plus vite okay. qu'un missile supersonique, le fameux missile supersonique Rachida Dati, vous savez, alors on ne peut le repérer, ce missile, une fois qu'il est parti, on ne peut plus l'arrêter. Et donc, hier, sur BFM TV, elle était très cash sur l'échec de Valérie Pécresse.
Malgré la passion qui m'anime, malgré la qualité de notre projet, je n'ai pas réussi, dans cette campagne atrophiée et en l'absence de vrais débats, à me délivrer de cet étau et à vous convaincre. Ce soir, le réflexe du vote utile a joué à plein et le peuple de France a voté. Et son verdict s'impose à nous. Ce résultat est évidemment une déception personnelle et collective. J'assume en responsabilité toute ma part dans cette défaite.
Je m'étais trompé, c'était Valérie Pécresse, absolument. Puisque je mettais les discours des gens un peu déçus. Donc, c'était le discours de Valérie Pécresse que moi j'ai trouvé plutôt...
Tout le monde a commenté en disant que c'est son meilleur discours, oui. En tout cas où elle était la plus naturelle et la plus sincère par rapport à tout ce qu'elle avait pu dire.
Mais Sarkozy avait un discours excellentissime quand il a perdu, souvent les perdants sont très très bons.
C'est vrai.
Donc elle a reconnu sa faute, Valérie Pécresse, et donc évidemment Rachida Dati, c'était sur BFM TV, ne l'a pas épargné.
La vérité ce soir, c'est que Valérie Pécresse, pour l'instant, dans notre
participation,
est à 5%. Qu'a-t-elle raté dans cette campagne pour se retrouver à 5% ce soir?
On n'a pas pu toucher les préoccupations des Français. Et une élection présidentielle, c'est aussi une incarnation, il faut se dire les choses. Donc voilà, parce que quand je vois que Mme Hidalgo a 1,8 ce soir, c'est aussi sa personne, c'est aussi la maire de Paris, c'est pas que le Parti Socialiste.
Donc c'est un problème d'incarnation à la fois du Parti Socialiste, à la fois de Valérie Pécresse.
Non, mais, c'est,
mais ça veut dire quoi, incarnation, Rachida Dati, pour Valérie Pécresse?
Quelque chose, incarner quelque chose. Il y a un rapport direct avec les Français. Moi, j'aime la politique parce que j'aime être en direct avec les Français. Je les entends, je vais les voir, je les touche, je leur parle, je me fais engueuler et alors je raisonne, je change aussi un peu de position.
Oui, vous trouvez que c'est facile?
C'est facile de le dire maintenant. On l'a pas beaucoup entendu pendant la campagne.
Elle fait de la
politique en parlant d'Anne Hidalgo parce qu'on sait très bien qu'elle vise Paris. Oui, on est tous d'accord. Il y avait un problème d'incarnation auprès de Valérie Pécresse, mais c'est quand même une ancienne du parti, Rachida Dati. On l'a pas beaucoup entendu pendant la campagne.
Elle a flingué Valérie Pécresse.
Elle a flingué Stéphanie. C'est différent Valérie Pécresse.
D'accord.
Je suis désolé.
C'était une balle par ricochet.
En tout cas, si je peux donner un élément factuel de notre sondage jour du vote qui explique. Le vote, il faut fiducial pour Sud Radio Match et TF1. L'objectif pour Valérie Pécresse, c'était de rassembler l'électorat Fillon. Patrick Stéphanie disait, si on en rassemble 75%, on peut être au second tour. Là, on est passé à 20% seulement des électeurs Fillon qui ont choisi Valérie Pécresse. On était encore à 40% avant le premier tour. Ça veut dire qu'il y a eu un vote utile de dingue, pardon de ce terme. Et en plus, c'est très lié aux visiteurs qui allaient chez Emmanuel Macron. 38% des électeurs Fillon ont choisi Emmanuel Macron et presque 1 sur 5 Marine Le Pen qui, pour ses électeurs, voit Marine Le Pen non plus comme extrême droite, mais comme une candidate de droite.
Ouais. L'enseignement que vous tirez, vous, Frédéric Dabi, de ce scrutin, déjà personnel, c'est-à-dire sur les sondages, où on disait qu'il y a un vote caché Zemmour.
Vous n'êtes pas complètement planté sur Mélenchon.
Vous n'êtes pas complètement planté sur Macron, où tout le monde nous disait c'est faux.
J'avais commandé auprès de Régis de Castelnau ma robe de bure et mon eau coulant pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Le cru est quand même très bon sur tous les candidats. Ce que les sondages ont vu, mais pas complètement, c'est la dynamique Mélenchon. Je répète qu'on l'a mesuré à 10% le 20 mars. Il finit à 17,5% dans notre rolling confidentiel de samedi. Ce qui n'a pas été vu, ce qui n'a pas été voir, c'est le point d'arrivée, c'est-à-dire une participation des jeunes des banlieues, des grandes villes, qui a donné à Jean-Luc Mélenchon une dynamique incroyable. Je rappelle que les estimations, pour une fois, n'ont pas été parfaites, puisque les instituts mettaient entre 1,5 et 2 points d'avance pour Marine Le Pen. Ça se joue finalement à 0,7-0,8, 500 000 voix. Mais je suis assez content du bilan et fier de notre ligne.
C'est comme les chaînes de télé.
Autosatisfaction. Alors,
Allez-y, Régis.
Je veux répondre parce que j'ai été mis en cause de façon qui me fait beaucoup de peine par Frédéric.
Mais non, pourquoi?
Si, je
m'en prie. C'est vous qui aviez commencé.
Mais
hein.
je voulais non, pas vous faire d'appel, Régis. Je vous adore.
Avec Frédéric, j'ai un désaccord sur la notion de quorum. C'est-à-dire que je considère qu'une élection avec 10% de participation, c'est pas une élection légitime. En revanche, je lui ai été fidèle pendant toute la campagne.
Mais je sais, Régis.
J'ai regardé tous les jours son rolling IFOP.
Mais Régis.
J'étais là.
C'était une joke, mais bien sûr, une plaisanterie.
Je plaisante aussi.
Merci. Mais
non, je suis désolé,
vrai qu'on a un vrai...
Alors attendez, laissez répondre Régis.
L'IFOP a été impeccable pour moi. Hein, c'est-à-dire que, si vous voulez, quand j'ai été voir sur la tribune de Genève, on annonçait Macron à 32%, j'étais au bord du sanglot, hein, et je me suis reporté aux résultats finaux. Et si on compare avec ce que proposait dans son rolling quotidien l'IFOP, il y a deux choses qui ont été sous-estimées. On va en parler. Mélenchon, et je pense qu'il y a un vote musulman pour Mélenchon qui est très caractéristique. Absolument. Et deuxièmement, l'effondrement, pour le vote utile, l'effondrement de Pécresse. Pour le reste, sur le niveau où était Macron et sur
les petits candidats aussi.
Et bravo. Puissiez-vous avoir raison sur le 51-49 et ses évolutions possibles dans la quinzaine qui vient.
Je voulais vraiment remercier Régis pour ces mots. Je voudrais devenir sérieux. C'est vrai que cette logique de vote utile, on en a parlé, mais elle a été complètement...
On en a
parlé à plusieurs reprises. C'est-à-dire...
C'est quoi le vote utile? C'était Macron, utile, quoi.
Mais il y a eu plusieurs votes utiles. Pour un électorat de droite, se dire « Oh là là, il y a peut-être un danger, Mélenchon-Le Pen, choisissons Macron. » Le fait qu'Emmanuel Macron passe dans notre dernier rolling de 25 ou 26%, Régis regarde notre rolling, donc il a le chiffre peut-être plus que moi, 26% des électeurs Fillon à 38, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement qui s'est passé les dernières heures. Dans notre sondage jour du vote, on a un électeur sur 5 qui s'est décidé le samedi ou le dimanche.
Et sur le tort de quoi, alors?
Et deuxième vote utile, un électorat de gauche qui s'est dit prenons le bulletin Jean-Luc Mélenchon pour éviter un troisième 21 avril, pour sortir Marine Le Pen et pour avoir, une raison moindre, un débat Mélenchon-Macron qui aurait eu, si je puis dire, de la gueule.
Non, mais bon.
Et pareil pour Zemmour, troisième vote utile.
On peut refaire le match, mais enfin, il y a tellement beaucoup plus d'enseignements à tirer de cette élection hier soir. Les analyses, moi, mathématiques, moi, les sondages, je leur fais généralement confiance. Je sais qu'il y a un débat depuis hier soir. Arrêtons de faire des sondages parce que ça influence le vote. Mais en fait, tout influence le vote. Donc, faut arrêter les sondages. Ça existe depuis la nuit des temps. Heureusement qu'ils sont là pour plein de choses. Donc, bon, on prend pas les
pendules. Alexis Poulain.
C'est-à-dire que il y a deux choses dans ce résultat. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir Emmanuel Macron aussi haut après tout ce qui s'est passé et les derniers scandales de campagne avec les cabinets de conseil qui lui ont pas fait plus de mal que ça en réalité. Ouais. Quant au vote Marine Le Pen, il est incroyable parce que j'ai pas eu l'impression qu'elle a fait une campagne très punchy, quoi. Elle était vraiment en retraite, cette campagne, et je pense qu'elle a bénéficié de l'effet Zemmour d'une certaine façon, où les thèmes de toute façon qu'elle aurait défendu étaient mieux défendus par Zemmour, qui lui a fait une campagne en mouillant la chemise, hein. Il était partout avec des meetings, etc. Et au final, les gens se sont dit, de toute façon, je vais voter utile, je vais voter Marine Le Pen, comme ça, on est sûr de faire quelque chose. Et le ralliement, d'ailleurs, immédiat du camp Reconquête à la candidature Le Pen l'a prouvé. Donc, il y a vraiment deux choses qui changent. Et puis, je crois qu'il y a... C'est pas 2017, effectivement. Le deuxième tour va être intéressant parce que cette fois-ci, s'il y a un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Emmanuel Macron a un bilan à défendre. La dernière fois, il était inconnu du grand public. Il arrivait comme ça, comme le nouveau prodige de la politique, de la banque d'affaires, etc. Là, il est le président qui a passé 5 ans aux commandes de la France avec une dette stratosphérique, avec certes des chiffres du chômage qui sont bons, mais une inquiétude quant à une possible récession. Avec un quoi qu'il en coûte qui va devenir un quoi qu'il va falloir rembourser une fois l'élection passée, puisque cette dette, elle est cataclysmique, je le rappelle, et les marchés vont nous le rappeler rapidement, ainsi que les banques centrales. Et donc, ce débat va être intéressant, parce que cette fois-ci, Marine Le Pen aura des arguments. Et je pense que l'argument d'en face, ce sera de dire qu'elle est la candidate de Vladimir Poutine, et qu'elle est anti-France, et qu'elle est raciste, etc. Je pense qu'elle aura d'autres arguments. Ouais. Et quand on voit finalement le vote Macron du premier tour... Je ne sais pas si les réserves de voix sont si larges que ça, malgré l'appel de tous les candidats ELV, PCF, LR, etc., à voter Macron. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle réserve de voix, parce qu'il y a quand même...
On va en revenir sur ce
intéressant sur ce que dit Alexis Poulain, sur le manque de punch de la campagne de Marine Le Pen. Je suis désolé, mais c'est le manque de punch qui a gagné hier soir. sur les trois campagnes. Parce que Jean-Luc Mélenchon fait un très mauvais début de campagne. Ouais. Je pense qu'il le paye à la fin. S'il avait été un peu plus en retrait comme il l'a été à la fin, je pense qu'il serait au second tour ce matin. Donc Jean-Luc Mélenchon, sur sa fin de campagne, bah, il est en retrait, il fait une campagne un peu plus classique et il finit à 22%, ce qui est un score exceptionnel hein, pour Jean-Luc Mélenchon, qui est en progression sur les trois élections.
Oui, c'est vrai.
2007, 2012,
11-3, 19-6 et plus de...
Et il finit très fort à chaque fois. Emmanuel Macron, bah bon voilà, c'est pas un secret pour personne, il a fait une campagne qui a beaucoup manqué de punch et où il était très en retrait. Et Marine Le Pen, pareil. Donc hier, en fait, au final, c'est ceux qui ont fait, ça concentre quand même autour de trois blocs, hein. C'est 75% autour de trois blocs, sur trois personnages, trois candidats, très en retrait pendant la campagne.
Je corrobore ce que Alex vient de dire sur notre sondage jour du vote sur qui a mené la meilleure campagne. Numéro 1, Marine Le Pen, 54%, bien au-delà de son score. Numéro 2, Jean-Luc Mélenchon, qui sait faire campagne. Il n'est pas bon pendant les quinquennats, on l'a vu à plusieurs reprises. Et Emmanuel Macron, seulement 30% juge qu'il a fait une bonne campagne, moins que par exemple que Fabien Roussel. C'est Anne Hidalgo qui, pour les Français, a fait la moins bonne campagne. 11% seulement pensent qu'elle a fait une bonne campagne.
Alors, je voudrais dire trois choses. Premièrement, j'aimerais savoir ce que c'est qu'un vote inutile. Parce que tous les Français qui votent ont la sensation d'avoir un vote vraiment utile. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que
vous ils comprenez très bien. C'est de se dire, moi je vote à gauche, je sais qu'Anne Hidalgo n'aura pas de chance, autant aller voter Jean-Luc Mélenchon.
Parce qu'il y a quelque chose qui est assez important, c'est que tous les gens calculent. Ils ne votent pas finalement forcément pour leur candidat. C'est très étonnant. Il y a énormément de gens qui calculent en disant il faut voter Mélenchon pour éviter Le Pen, il faut voter... Et donc, c'est plus la spontanéité, on vote plus pour son candidat, on vote pour voir qui va arriver au second tour, comment on va faire, il y a des biais partout. L'électeur est assez intelligent. Ensuite, ce qui m'ennuie moi fortement, c'est que Mélenchon, qui est un tribun extraordinaire. Et je me souviens avec Valérie d'un discours de Mélenchon directement à l'antenne, à la télévision, où on était pratiquement en larmes pour Charlie Hebdo. Vraiment un tribun extraordinaire. Et ce qui m'ennuie, c'est que les jeunes ont massivement voté pour lui, et c'est vrai, et de tous les quartiers, de tous les milieux, etc. Et c'est un discours de haine. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me terrifie. Mélenchon est haineux. Je veux dire, il veut couper les têtes. C'est important de dire ça. Donc la France
Pas hier soir.
Hier soir, c'était plus...
C'est un véritable homme politique.
Alex a bien raison. C'est la première fois qu'il fait un discours qui n'est pas dans le ressentiment. 2012, on s'en souvient.
Oui, mais toute la campagne 2014,
Où il a son imper noir, je peux pas utiliser un adjectif, vous m'aurez compris. Et 2017, où il est tellement... D'ailleurs, son équipe, alors que l'écart est net, remet en cause les estimations.
Complètement.
Là, alors qu'il y aurait de quoi faire, parce que ça s'est resserré. Ils ont été absolument impeccables. Derrick Coquerel, Emmanuel Bomba.
Mais c'était avant, il a été élu à cause de la haine. Il a eu un très bon discours sur le second tour
quand il a répété quatre fois, Urbi et Orbi, pas une voix pour Marine Le Pen.
Je veux bien, est-ce que je peux rajouter quelque chose?
Allez-y, Alexis Poulain.
Parce que là, on parle des candidats, et c'est bien tout le problème de cette élection présidentielle, c'est l'hyper-personnalisation.
C'est l'incarnation, mon cher Alexis.
Derrière, il y a des programmes, il y a aussi des mouvements, il y a une démographie. Ce qu'il faut voir dans le vote Mélenchon, c'est la jeunesse, c'est les 18-34 ans qui ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Il a raté son pari de faire voter les abstentionnistes, mais il faut voir cette démographie. Et quand on a ces trois pôles, on a Emmanuel Macron qui est le candidat clairement des plus de 65 ans. Encore une fois, la démographie est importante dans ce vote. Marine Le Pen entre les deux et Jean-Luc Mélenchon qui est le candidat de la jeunesse. Cette jeunesse, elle va se sentir privée d'avenir, elle va se sentir un peu coincé parce que ce jeu d'hyper...
Il n'est pas d'accord. On va marquer une pause. C'est la pub. Sinon, on perd la pub. On n'a pas d'argent et on va faire comme Valérie Pécresse. On va en parler. Qui lance un Pécreston. Elle lance un Pécreston parce qu'elle a 5 millions d'euros de dettes de façon personnelle. Vous nous direz ce que vous en pensez. A tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Débat avec vous sur Sud Radio dans cette édition spéciale. Nous commentons les résultats de ce premier tour. On a Muriel en ligne avec nous. Bonjour Muriel.
Bonjour Valérie et bonjour à tous ceux qui participent à cette émission.
Oui.
Par contre, je vous demanderai une chose, c'est qu'ils soient un peu disciplinés parce que c'est inaudible. Oui. Tout le monde parle en même temps et c'est fort déplaisant. On a envie de raccrocher.
Il ne faut pas. Je vais faire la maîtresse d'école et je vais leur taper sur les doigts.
Avec la baguette sur les doigts.
Alors Muriel, est-ce que vous êtes contente vous du résultat de...
Non, parce que moi, je suis républicaine et je soutenais Valérie Pécresse. Alors on savait savait très bien qu'elle ne serait pas très haut dans les sondages, mais là, franchement, elle fait moins de 5%. Moi, je suis les bras mentons, quoi, parce que moi, je me retrouvais en tant que retraité tout à fait dans son programme. Et dans la mesure où Emmanuel Macron, il a explosé tout le monde. Il a explosé la gauche, il a explosé la droite, il a explosé tout le monde. Il nous a traités comme de la merde. Et je m'excuse de l'expression, oui. Mais à un moment donné, ça va, quoi. Moi, depuis mes 18 non, mais 21 ans, puisqu'à l'époque, on votait à 21 ans. J'ai toujours voté, je me suis jamais abstenue, etc. Mais là, franchement, et puis alors, je suis anti-Le Pen à 100%.
Voilà. Donc, vous allez faire quoi?
Ah ben, je suis, voilà. Je suis comme tout le monde, mais de toute façon, Macron n'aura pas ma voix, et Le Pen non plus. Alors, je me pose la question, et je ne me suis jamais abstenue, jamais. Voilà.
Bah là, vous êtes mal, alors pour qui vous votez?
Je suis dans le caca.
Ben oui, dans
là,
le caca.
C'est pas simple, ouais. Pour voter.
C'est pas simple.
En fait, votre vote, vous votez pour les retraites.
Ben non, mais c'est pas ça, madame. Moi, on m'a mis... Moi, j'étais chef d'entreprise, hein, madame de Montaigne.
Ah, bravo.
Donc, ouf. Je n'ai pas, malheureusement, des retraites extraordinaires. Enfin, une retraite...
Oui, vous avez une retraite correcte.
Mais qu'est-ce correct, qui... mais sans plus, hein, non plus. On m'a mis la CSG, elle n'a pas été indexée sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Mais c'est quoi Alors, la seule chose que je peux reconnaître, mais enfin, de toute façon, on le paiera quelque part, c'est qu'on n'a plus de taxes d'habitation. Hein, il nous a supprimé ça, mais le reste, il se rattrape ailleurs. Hein. Ouais. Mais moi... C'est cette façon aussi de s'être adressé aux Français, de nous avoir méprisés, de nous prendre pour vraiment des petits gens. Ouais. Ça, franchement, non. Par contre, l'autre, elle est encore plus maligne. Hein,
Marine Le Pen.
Elle s'est lissée, voilà.
Bon,
elle,
donc on elle sent. Est-ce que les gens... Muriel, est-ce que vous donnerez de l'argent à Valérie Pécresse pour rembourser sa campagne?
Oui, j'enverrai quelque chose.
D'accord.
En fonction de mes moyens, mais je l'ai donné au Sarconton, hein, donc je ferai en fonction de mes moyens. Mais moi, je veux pas que les LR disparaissent. Voilà.
Bah oui, alors on va. Ça, c'est intéressant. Merci Muriel de votre appel.
Je voudrais répondre à Muriel. Elle dit, je ne veux pas que LR disparaisse. Mais LR ne disparaît pas. Ce qui est très intéressant dans cette séquence électorale, c'est qu'elle acte la bipartition du champ politique.
Ça veut dire quoi en français?
Eh bien, à l'échelle locale, qui domine? Qui domine les villes, les départements, les régions? LR, le PS, Europe Écologie Les Verts, et dans beaucoup de villes, le PC.
Est-ce que ce sera encore le cas?
On verra. Mais en tout cas, localement, ces partis traditionnels tiennent. Nationalement, il n'existe plus. Je parlais tout à l'heure. Maintenant, on a dit, Muriel ne veut plus qu'on s'interrompe pour qu'on soit bien compréhensible. Donc, je ne vais pas faire une heure, mais laissez-moi pendant 30 secondes. Ouais. Maintenant, je regarde tout Sophie. Maintenant, les retraités, c'est très intéressant. J'ai dit tout à l'heure qu'Emmanuel Macron était à 40% ou 39% chez les retraités. Ça a très mal commencé entre lui et les retraités.
Ouais.
Avec toute une série de mesures, la désindexation des retraites, la CSG. Dans une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio sur les gagnants et les perdants du quinquennat, en mars 99, donc 2 mois avant les européennes, 95% des personnes âgées se disaient perdantes du quinquennat. Eh bien, il y a une dissociation. Ça ne les empêche pas d'avoir voté fortement pour En Marche aux élections européennes, pour des raisons d'adhésion à l'Europe, de crainte de Le Pen. Et aujourd'hui, d'avoir voté très fortement pour le candidat Macron.
Ouais. Jean-Marie est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, je vous pose la question. Vous êtes content du résultat de ce premier tour?
Non, je ne suis pas content de ce résultat pour la bonne et simple raison que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de volonté politique réelle. En fait, on sent que la politique aujourd'hui, je trouve que Macron, c'est plus un opportuniste qu'un politicien, si je puis me permettre. Je trouve que la politique est en train de... Il n'y a plus de vrais partis politiques avec des objectifs qui sont respectés. Et en fait, c'est ce qui fait la ruine du pays. La politique est complètement dénigrée. Les gens ne savent plus où ils en sont, ils ne savent plus qui voter. On va malheureusement, on risque d'avoir des extrêmes qui peuvent être durs. Moi-même, j'ai voté Éric Zemmour. Je trouvais que c'était quelqu'un qui n'était pas politicien, et voilà. Donc, ça a été mon choix. Mais c'est vrai qu'on est un peu désorienté. Je trouve qu'on est désorienté. Je suis retraité, donc je voulais pas voter Macron d'un point de vue personnel. Après, je trouve qu'effectivement, Macron n'a rien fait de point de vue général pour le bien de tous. Il n'y a rien de... Il n'y a pas d'objectif qui soit respecté.
Et alors, vous ferez quoi au second tour ?
Je suis très ennuyé. Je suis très ennuyé parce que je trouve que c'est le flou, quoi, et que...
C'est le flou. Vous avez le choix entre Macron ou Le Pen.
Oui, mais comme je trouve qu'il n'y a pas d'objectif réel et qu'il n'y a pas une volonté politique réelle avec des objectifs qui sont carrés de parti, aujourd'hui, on peut se fier à rien du tout, quoi.
Allez, on va marquer une pause. On va parler de ce second tour, justement, de ce qu'on peut en dire, quels sont les enjeux pour les uns et les autres. On parlera aussi des petits candidats ou même des grands candidats qui n'ont pas fait le score escompté. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous voulez réagir, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube et également sur Facebook. On est en direct avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, une édition spéciale ce matin avec Sophie de Menton, présidente du mouvement éthique. Votre dernier livre, La France sans dessus-dessous, est paru aux éditions Erol. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Votre livre, La fracture, est paru aux éditions Les Arènes. Régis de Castelnau, vous êtes avocat. Votre livre, Une justice populaire, est paru aux éditions L'Artilleur.
Politique.
Populaire. Ah, il est trop populaire. Elle n'est pas populaire. Non, c'est parce que j'avais Front Populaire en dessous. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et vous êtes également éditorialiste sur Sud Radio le mercredi matin. Et Alex Darmon, journaliste politique. Et vous avez une chaîne YouTube sur YouTube, voilà, qui s'appelle Les Indécis, chaîne de débat politique. Et Gilles Gansman qui est resté avec nous pour un deuxième zapping politique.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
Alors, on passe à 22h, la deuxième partie, vous savez, celle des analyses, des moments de constriction, oui, j'avoue.
Constriction,
c'est le masque, oui, exactement.
Il y en a qui serrent le kiki.
Oui, j'avoue, on s'est trompé.
Comme vous y allez, Valérie.
Le kiki, c'est le coup, hein. Oui,
en commençant par le score d'Anne Hidalgo, Jean-Baptiste Boursier sur BFM a posé la bonne question à Stéphane Le Foll. Est-ce la fin du PS ?
Est-ce que ce soir, le Parti Socialiste, dire les choses, a disparu ? Est-ce que c'est la fin du PS ce soir ?
C'est la fin du PS tel qu'il a existé, c'est certain. 1,8%. Et à la différence des Républicains, c'est quelque chose qu'on avait anticipé puisque c'est quelque chose qui avait été annoncé depuis un certain temps. Donc ce parti tel qu'il est là, c'est certain. Cette incapacité qu'a eu la gauche, de manière plus large que simplement le Parti Socialiste, à être une force de proposition, mais à la fois idéologique, politique, culturelle, pendant les 5 dernières années, et sûrement avant, hein, avec les divisions qui existaient, ça avait été rappelé par Olivier Véran entre Frondeur et puis la majorité de l'époque. Tout ça, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, ou que dans la gauche, on reste calé sur des positions qui existaient, certes, et qui ont été... souvent revendiqués, mais qui n'ont pas évolué.
Valérie, sur tous les plateaux, Arrow sur Marine Le Pen, en commençant par Rachida Dati, qui était donc très en forme. Elle s'en est prise à Julien Odoul sur le plateau de BFM.
On aurait Marine Le Pen au pouvoir ou Éric Zemmour, mais je ne serais pas sur votre plateau. Impossible, jamais, jamais. Non, c'est pas ridicule. J'aurais même pas eu de bourse pour faire des études.
Mais Madame Dati, voyez,
c'est la réalité.
Vous ne pensez pas ce que vous dites.
Mais non, pas du tout, surtout moi.
Mais non, mais je veux dire, est-ce qu'on peut avoir un débat de fond ?
Eh ben, on a un débat de fond.
Les Français ont tranché. Est-ce qu'on peut parler projet contre projet,
voilà,
au lieu de parler de caricature et de
mensonges ? Vous êtes un courant politique qui ne veut pas la paix civile.
On en parlait tout à l'heure. De son côté, Jean-Michel Blanquer, vous allez voir, s'attaquait aussi à Marine Le Pen et avec ses liens avec la Russie. Tout à l'heure, M. Castelnau en parlait. Évidemment, ça va être au cœur du débat.
Marine Le Pen cache ses intentions. Il faut bien voir que depuis 5 ans, Emmanuel Macron a su donner un poids de la France sur le plan international et à l'échelle de l'Europe. Ce qu'il faut faire aujourd'hui face à la menace que représente la Russie, c'est en renforçant l'Europe. Et il y a encore beaucoup à faire en la matière. Ce serait un incroyable recul que d'avoir Mme Le Pen à la tête du pays. Mme Le Pen, elle peut pas dire non à son banquier puisque son banquier est russe. Elle est dans une situation de dépendance internationale qu'il faut quand même souligner. Donc le patriotisme n'est pas du côté de Mme Le Pen. Le patriotisme est du côté d'Emmanuel Macron.
On va y revenir sur les arguments des uns et des autres. Et Gilles, terminé.
Les journalistes faisaient aussi leur petit calcul de report. Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, évidemment, pour ses consignes de vote, bah, faisaient un peu du Macron. Hein, en même temps, oui, mais non. Et la fameuse phrase barrage à Marine Le Pen.
Ne commettons pas l'erreur de nous fourvoyer à peine entrés sur le chemin. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Et pour le reste, comme je vous l'ai dit il y a 5 ans, ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen.
Alors, vous ne l'avez sans doute pas vu parce que c'était 1h du matin et moi, ça a été mon moment préféré de la soirée sur France 2. Emmanuel Valls.
Manuel.
Manuel Valls.
C'était bien vu comme lapsus.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, flatteur de Macron, qui a tendu la main. S'il vous plaît, un ticket de restaurant et un poste au prochain gouvernement.
Il faut rappeler quels sont les enjeux. C'est le destin du pays et de l'Europe qui est en cause. Mais aussi faire adhérer positivement autour d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas un vote contre Le Pen ou un vote antifasciste. Non, c'est quelque chose de plus puissant, d'espoir autour du président de la République. C'est ça l'enjeu, au fond. C'est l'avenir de la France et de l'Europe. Ça, c'est Emmanuel Macron qui l'incarne face, au fond, à une candidate qui nous enlèverait toute indépendance. Elle serait alignée sur Vladimir Poutine, par exemple, ou qui mettrait le pays à terre par sa politique économique et sociale. Mais c'est comment on rassemble. Et ça, je pense que c'est le chef de l'État sortant, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui peut incontestablement mieux
une
le faire.
Dernière...
Voilà. Oui, un tout petit mot, parce que j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans les solutions, parce que ce qui est très angoissant aujourd'hui, c'est l'absence absolue de visibilité par rapport à tout ce qui se passe et à tous ces votes. Je voulais signaler aussi un tout petit point, il y avait un auditeur qui a dit tout à l'heure que Macron était formidable par rapport à la Russie, etc. J'étais sidérée de voir, ça n'a rien à voir, mais sidérée de voir qu'il est terriblement critiqué par les Ukrainiens, et qu'il fait semblant et qu'il n'en a pas fait assez, et que quand Poutine, lui, a dit qu'il s'était servi de ces conversations pour se faire élire. C'est une parenthèse, ça vient de l'étranger, je ne le cautionne pas, mais je le dis. Ensuite de ça, il y a quelque chose que Macron a dit, que vous ne relevez pas, mais moi, c'est la seule chose que j'ai relevée. Il a dit à un moment donné, je vais inventer quelque chose de nouveau. Alors, inventer quelque chose de nouveau, c'est quand même assez intéressant dans la voix du président sortant et qui voudrait bien revenir.
Oui.
Et que peut-il inventer de nouveau ?
Il l'a déjà inventé.
Oui, il l'a déjà inventé depuis 2017.
Hein. Alors, il ne l'a pas inventé parce que ça voudrait dire enfin qu'il comprend qu'il fait le grand écart, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche et que c'est la fin du en même temps. Comment on va essayer ? Est-ce qu'il faut un peu de proportionnel ? Comment est-ce qu'on zappe Marine Le Pen à 49%, imaginons qu'elle le soit ? Comment est-ce qu'on zappe définitivement, quand on est élu président, une Marine Le Pen à 49%. Je demande.
Moi, je voulais Frédéric Dabi et... Alexis, si je confonds Alexis et Frédéric. Alexis Poulain, il ne faut pas donner une seule voix à Marine Le Pen. Vous allez faire quoi, vous, au second tour ?
Bah, moi, je vais regarder ça avec intérêt.
Oui, mais
j'ai pas de consigne de vote à donner et je vous rappelle que le vote est quelque chose
sur Twitter, donc c'est pas non plus un secret.
Écoutez, là on a affaire à une blague. On a le choix entre c'est ce que je disais ce matin dans la revue de presse du Monde Moderne, c'est vous arrivez au resto, à chaque fois vous avez plein de plats super alléchants et vous finissez avec une pizza buitoni, quoi.
C'est insupportable. Ce sont les Français qui ont voulu ce plat, quand bien même vous ne l'aimez pas, vous me faites rire.
Non, parce que je crois qu'il y avait à la consommation de plats variés.
Vous
choisissez votre restaurant.
Laissez-moi finir. Non, mais on a dit qu'on laissait les gens parler.
Vous avez raison, je me tais.
Allez-y.
Remarquez que je me tais.
Merci. Si on avait les candidats ou les représentants des partis dits anticapitalistes qui avaient accès aux médias comme les autres, et pas tous les 5 ans pendant la période d'égalité du temps de parole,
le pays serait très différent.
Mais n'importe
et les
quoi.
Votes seraient très
franchement,
différents.
N'importe
de toute
quoi.
Façon,
non, mais Éric Zemmour, je vous rappelle, qu'Éric Zemmour a fait 6%.
Non, mais une démocratie éclairée, c'est le choix éclairé. C'est donc la capacité de comprendre que les plats sont beaucoup plus variés que ce qu'on vous propose de force parce qu'on vous vend de la lessive avec les présidentielles. La présidentielle, pardon. Et donc, évidemment que se retrouver avec la même affiche que 2017, alors qu'un sondage de BFM de janvier 2020 disait que 80% des Français.
Mais justement, c'est les Français qui l'ont voulu.
Je vais répondre.
Alors attendez, Alexis. Laissez-le terminer.
Justement, répondre sur.
Je dis
ce
juste
point.
Que ça dégoûte en fait. Allez. Ça dégoûte beaucoup de Français. Et je pense que derrière, ce qui sera intéressant, c'est les élections législatives.
Alexis Poulain, il y a une élection démocratique. Vous avez un bulletin de vote. Vous pouvez aller voter. Les Français peuvent aller voter. Il y a eu 15 jours d'égalité. Total entre les expressions.
Cet argument ne marche pas pour Jean-Luc Mélenchon depuis 5 ans.
On n'entend que lui.
Mais oui.
Attendez, je vais répondre seulement à notre ami Philippe Poutou, je parlais de Nathalie Arthaud, je parlais de. Regardez, Éric Zemmour, par exemple, a permis d'ouvrir la fenêtre d'Overton du côté de l'extrême droite. Du côté
de Alexis, pensez à Muriel.
Alors, attendez.
Je veux répondre seulement sur un point sondagier. Alexis dit. Il y a un sondage de BFM, sans doute fait par mes confrères des Labs, qui dit 80% des Français ne veulent pas du duel Macron-Le Pen. Oui. C'est vrai, l'IFOP c'était 3/4, mais Alexis, ce sondage n'a aucun sens. Je suis électeur d'Emmanuel Macron. Je veux qu'il soit au second tour.
C'est une supposition, hein, vous n'êtes pas en train de donner votre opinion.
Mais je ne veux pas qu'il soit face à Marine Le Pen. Je suis électeur de Marine Le Pen. Je veux Marine Le Pen. Je finis ma phrase, s'il vous plaît. Je veux Marine Le Pen au second tour, mais surtout pas contre ce méchant président Macron. Ce qui faisait la réalité des choses, ce sont les enquêtes d'intention de vote. Elles ne sont pas parfaites, certes. Elles ne sont pas prédictives, certes. Mais dès octobre 2017, on a eu des Français qui ont placé Macron et Le Pen au second tour. Et je rappellerai un point objectif. Emmanuel Macron, Marine Le Pen progressent en pourcentage et on verra en nombre de voix et sans doute par rapport à 2017. Ils progressent chacun de 3 et 4 points. Donc Alexis, vous n'êtes pas sérieux là-dessus.
Ouais, et juste une chose, depuis le début des analyses, depuis hier soir, depuis ce matin, on dit oui, Jean-Luc Mélenchon fait une percée, c'est vrai, il fait une très belle percée, Marine Le Pen progresse aussi. Mais on ne parle pas d'Emmanuel Macron. C'est un président sortant qui hier termine très très haut, vraiment avec un score très important. Donc peut-être, je ne dis pas tout le monde, mais peut-être qu'il y a quand même une grosse partie des gens qui ont adhéré à ce qu'il a fait depuis 5 ans et qu'on ne les a pas entendus depuis 5 ans. C'est la démocratie. C'est le jeu de la démocratie, Alexis Poulain, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Il y a eu des plats, pour reprendre votre image, on est au restaurant, il y a eu des plats, c'était un self-service, tout le monde s'est servi, et si vous n'étiez pas content, il fallait faire votre propre cuisine et vous présenter. Voilà, c'est tout.
Régis, sur ce que disait Alexis.
Je ne suis pas d'accord avec lui, je suis souvent d'accord avec lui, mais là je ne suis pas d'accord avec lui. Effectivement, le fait que Poutou et Arthaud soient si bas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas pu s'exprimer. Depuis 5 ans, ils ont des militants, etc. C'est que ça n'embraye plus.
Ils sont nuls.
Personne. Mais non, c'est même pas qu'ils sont nuls.
C'est qu'ils veulent pas être présidents quand même.
Des bons scores. Rappelez-vous, Arlette Laguille avait fait des bons scores. Aujourd'hui, ce monde-là.
Pour faire
Laguille
et Arthaud.
Je voulais profiter de la présence de Frédéric pour le taper d'une consultation. c'est que, effectivement, je constate. Alors, Mélenchon fait un bon score sur lequel il va falloir travailler, sur le vote musulman, par exemple. Mais, j'ai deux questions. Ma première question, c'est que les sondages IFOP le donnaient largement battu au second tour. Est-ce que ça n'a pas été un obstacle, ça, au vote Mélenchon, qui est devenu, d'une certaine façon, un vote anti-Marine Le Pen plus que anti-Macron? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, c'est qu'on nous a annoncé, et je crois qu'il y pense sérieusement, que Macron, s'il est réélu, même si c'est de très peu, a l'intention, pour ne pas avoir une campagne de législative assez longue, c'est-à-dire 2 mois, envisager de dissoudre l'Assemblée nationale.
Non, il a dit non.
C'est fini, ça.
C'est fini. Ah bon, c'est fini, d'accord. Fini. C'était pour savoir si ça pouvait avoir une influence.
Alors, Frédéric va vous répondre dans un instant sur ce vote anti-Marine Le Pen pour Mélenchon. Dans un instant, petite pause de pub, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous et plutôt les commentaires autour de ces résultats de premier tour. On peut éventuellement aussi anticiper sur ce que va être, ce que vont être ces 15 jours avant le second tour et qui, quels seront les enjeux. On en parle avec Sophie de Menton, Frédéric Dabi, Régis de Castelnau, Alexis Poulain et Alex Darmon. Mais Régis vous a posé une question.
Oui, alors je voudrais la compléter alors, un tout petit peu ma question à Frédéric. Donc, exit la dissolution. Concernant le score de Mélenchon, il va y avoir une campagne de législative qui va être assez longue. Est-ce que, incontestablement, il a construit une dynamique assez impressionnante d'ailleurs. Est-ce que ça peut se traduire aux législatives? C'est-à-dire que l'effet Macron LREM de 2017, est-ce que on peut penser que malgré la campagne de deux mois, ça va quand même jouer, ou bien est-ce qu'on risque d'avoir une chambre un peu particulière? Et c'est pour ça que je parle d'abord de l'exemple Mélenchon, en rappelant aussi quand même que en 2017, malgré ces 11 millions de voix au second tour, parce qu'Alexis parlait du système démocratique, malgré ces 11 millions de voix, Marine Le Pen s'était retrouvée avec 3 ou 4 députés.
10.
Oui, 10, mais enfin, c'était...
C'est très, c'est très peu.
Je voudrais compléter la question de Régis. Moi, je pense que compléter cette question, parce que je suis d'accord, et en même temps, on ne peut pas zapper le score inouï qu'aura eu Marine Le Pen au second tour. Donc, on va partir aux législatives avec des gens qui n'ont personne pour les représenter localement, parce qu'ils vont être obligés d'aller trouver des députés je ne sais pas où, ils vont mettre des petites annonces. Et encore, faut-il qu'ils soient élus, parce que les gens qui votent pour les législatives, ce n'est pas la même chose. Et puis, enfin, qu'est-ce que les gens... Moi, j'aimerais bien que les auditeurs le disent. Comment ils voient la suite? S'ils ne sont pas contents, c'est parce qu'ils ont compris que ça allait être un foutoir pas possible. Et moi, j'aimerais comprendre quel est le paysage français. Frédéric, qu'est-ce qui peut se passer pour avoir...
C'est une conférence, là.
Non, mais rapidement, ouais. C'est pas possible. Sophie. Ouais. Enfin, moi, ce que je voulais vous dire, c'est vrai que les élections législatives sont indexées sur l'élection présidentielle. On fait l'hypothèse qu'Emmanuel Macron l'emporte. Ça ne sera pas la même poussée, sans doute, qu'en 2017, ça sera plutôt sur le modèle 88, où la réélection de François Mitterrand avait donné une chambre favorable au PS, mais de manière très étriquée, c'était une majorité relative. Maintenant, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon domine de manière hégémonique le bloc de gauche. Qu'est-ce qui se passera, circonscription ? Est-ce qu'il y aura des accords PS, Europe Écologie Les Verts, PC, France Insoumise ? Personnellement, aujourd'hui, ici et maintenant, je n'y crois absolument pas.
Et Le Pen, t'en fais quoi?
Mais je parle de la gauche.
La question, elle portait sur Mélenchon.
Parce que quand même Jean-Luc Mélenchon a fait des très bons scores, il y aura des sortants, PS, Europe Écologie Les Verts, PC, qui ont une force. Est-ce qu'il y aura dispersion de la gauche comme à la présidentielle, ce qui peut être préjudiciable? Parce que n'oublions pas qu'à la qu'au législatif, il y a une règle. 12,5% pour se maintenir, des inscrits pour se maintenir au second tour. La gauche peut être éliminée même dans des circos où elle est forte. Donc voilà, c'est d'abord la question du mécano électoral qui va se poser.
C'est pas la même élection. Si je peux me permettre, il y a eu un vote très très fort autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. On en parlait tout à l'heure. Moi, je pense qu'aux législatives, ça va être autre chose.
Mais avant les législatives, il y a le second tour. Et quelle stratégie pour les uns et les autres? Parce que moi, j'entendais hier Éric Dupond-Moretti qui parlait de bruit de bottes, de peste brune et tout. Je suis pas sûr que ce soit l'argument pour contrer contrer Marine Le Pen.
Alors,
Alex, et puis après vous parlerez, Alexis.
Non, mais c'est surtout que je pense que là, Emmanuel Macron va être obligé de rentrer en campagne. C'est ce qui se dit, en tout cas, chez LREM. C'est qu'il va être sur le terrain. D'ailleurs, il y est dès ce matin. Il est dans les Hauts-de-France. Il va faire un déplacement par jour. Il va pas être loin de faire même un meeting par jour. Il a compris, en fait, qu'il avait plus le choix. Et que là, il fallait qu'il fasse campagne non-stop pendant 15 jours.
Ce qui est important, c'est pas qu'il se balade.
Donc j'y viens. C'est important. Quand vous vous baladez, vous pouvez dire plus de choses quand vous restez enfermé. Enfin, à mon sens. Et l'autre chose, c'est tout à l'heure, Alexis disait s'il y a débat, il y aura débat, hein, puisque c'est prévu, c'est le mercredi 20 avril. On sait que les deux équipes de communication des deux candidats travaillent activement à ce débat. Et moi, je pense que ce débat va être extrêmement important.
Très important,
beaucoup plus que les précédents, parce que Marine Le Pen, ça fait 5 ans qu'elle se prépare et qu'elle veut prendre sa revanche. Donc, je pense qu'il va y avoir une campagne. Tout le monde le disait hier, moi j'étais au siège, porte de Versailles pour couvrir la campagne d'Emmanuel Macron. Tout le monde le disait, c'est la vraie campagne qui commence. Ouais. Voilà, ils ont réussi leur coup au premier tour à être très haut. Aujourd'hui, il faut qu'ils rentrent en campagne.
Alexis, vous vouliez...
Oui, moi je crois que de toute façon, cette danse des promesses qui va durer deux semaines, le temps de la campagne, elle est illusoire. En fait, c'est prendre les Français pour des enfants. On va être au théâtre de Guignol, c'est-à-dire que d'un côté, Emmanuel Macron va faire croire qu'il va pouvoir séduire les électeurs de gauche. On va entendre les inepties comme Dupond-Moretti parler de bruit de bottes, de peste brune, etc. On va accuser Marine Le Pen d'être la candidate de Vladimir Poutine. De l'autre côté, elle va accuser Emmanuel Macron d'être le candidat de McKinsey.
C'est insupportable d'entendre dire ça, parce que dans ces cas-là, vous ne faites plus de campagne, vous ne faites plus rien. Vous ne pouvez pas dire qu'on prend les Français pour des enfants et qu'ils sont déplacés à 75%.
Laissez-le terminer.
On n'est pas sur le plateau en plus. Les promesses, c'est quoi? C'est simplement trouver de quoi draguer les électeurs pour ensuite avoir le champ libre pour continuer un programme de casse sociale qu'il a initié. Je parle d'Emmanuel Macron, là, en l'occurrence. Pour Marine Le Pen, au moins, c'est la surprise. On ne sait pas de quoi elle va être capable, ni qui va être son équipe gouvernementale. Donc, si les Français ont envie de changement, ils votent Le Pen. S'ils veulent continuer avec Emmanuel Macron, ils votent Macron. Maintenant, tout ce qui va être promis, mis sur la table, c'est du pipeau. C'est de la campagne. Ça n'engage que ceux qui y croient.
Mais on fait on fait la révolution, on coupe les têtes, on descend dans la rue.
Il y a deux choix très simples. Soit vous continuez avec Macron, soit vous le virez.
Mais oui, ça, on avait compris.
C'est aussi simple que ça.
Bah oui, ça, on est forcément. Oui, ça, j'aimerais en tout cas, moi, parenthèse, ça intéresse absolument personne, les entreprises, les PME. Il y a Marine Le Pen, je crois, a cité les PME. Le discours économique, c'est quand même la base de tout. Parce que, par exemple, si Marine Le Pen passe, il semblerait que pour rembourser notre dette, pour tous les fonds, les investissements, etc., il y a une inquiétude internationale financière qui est importante. D'un autre côté, quoi qu'il en coûte, d'Emmanuel Macron qui a creusé une dette comme jamais elle n'a été creusée, il faut aussi la rembourser. Donc il faut aspirer de la confiance, c'est important. Mais économiquement, on n'a rien dit. Non, là, moi, j'ai là tous les prix de ce qui va être fait. Économiquement, rien n'a été dit.
Non, mais Frédéric,
c'est le sujet.
Frédéric, dans une de vos études, enquêtes, le sujet principal de préoccupation des Français, c'est la santé.
Santé, pouvoir d'achat.
Santé, pouvoir d'achat.
Santé, très fort, et ça a commencé avant le Covid, parce qu'il y avait...
Les questions de fric, ça aussi.
Il y avait la question de la démographie médicale, de la renonciation aux soins, mais c'est quand même le pouvoir d'achat, dans notre sondage jour du vote, qui a structuré le plus la campagne.
Donc Marine Le Pen.
Oui, quand on demande qui a fait une meilleure campagne, c'est Marine Le Pen. Et quand on demande aux Français, c'était une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, en qui on a le plus confiance pour améliorer la situation sur le pouvoir d'achat, il y avait un assez fort équilibre entre Mélenchon, Le Pen et Macron. Donc ça sera un vrai enjeu, notamment dans la mesure où autant on a deux électorats Macron-Le Pen extrêmement différents, voire superposables, antagonistes, autant il y a une zone de frottement, une zone de compétition très nette, c'est le salariat. Aujourd'hui, hier, Marine Le Pen est arrivée en tête chez les salariés.
Régis
moi, je suis un peu de l'avis d'Alexis, je crains la grande quinzaine antifasciste. Je me réfère à Lionel Jospin, qui dès 2002 disait que c'était du théâtre. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui était un grand fantaisiste. Il le disait, ça va être pénible. Et c'est vrai que la campagne, dans la mesure où ça martèle Dupond-Moretti qui vient parler de bride botte, mais tais-toi, bon sang de bonsoir. Non, mais sors de là, va faire le pitre sur les estrades de théâtre, mais arrête de parler
politique. Ça sont vraisemblablement des éléments de langage qu'on va entendre. On a entendu Marlène Schiappa hier. C'est là-dessus que ça va jouer.
Dans ce cas-là, qu'il continue, parce que, si vous voulez, l'idée de reprendre 5 ans avec ses têtes, c'est insupportable. Donc, ça va peut-être mobiliser les gens pour voter contre Macron. Je reviens à ce clivage. Je parlais des législatives parce que, effectivement, le président de la République, on vous dit, c'est une monarchie présidentielle, etc., ce qui n'est pas complètement faux, mais... Sur le plan constitutionnel, il n'a pas tant de pouvoir que ça. Moi, j'ai connu 3 cohabitations. Eh bien, le président, il était un petit peu réduit en grande partie à inaugurer les chrysanthèmes. Donc, ce que sera Parce que Frédéric a raison, je crois que Alex l'a dit aussi, le pays, il est quand même, depuis les élections municipales de 2014 confirmées par celles de 2020, la droite est hégémonique dans les collectivités locales.
Bien sûr. Droite, hein, PS aussi,
Il reste un peu de PS, c'est pas faux. Hein. Donc, sur le terrain, les gens, regardez la réélection de Delga à la région Occitanie, enfin, je veux dire, c'est des élections de maréchal. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? Et je vois, l'indexation de la législative sur sur l'élection présidentielle, c'est vrai, sauf que cette fois-ci, le délai est plus long, hein, et que on a fait l'expérience de Macron et que Macron fait dans la partie de la population qui ne vote pas pour lui l'objet d'un rejet important. Donc on pourrait se retrouver, c'est-à-dire que est-ce que on va pas aussi commencer à réfléchir à ce troisième tour? Dernière observation concernant Mélenchon, il a réalisé son rêve, il voulait remplacer le Parti socialiste, il voulait être celui qui allait devenir le leader à gauche, comme ça il se vengera de toutes les avanies qu'il a reçues de la part du PS. En tout cas, de ce point de vue-là, c'est mission accomplie, c'est tout à fait incontestable. Donc c'est quelqu'un qui, dans la suite, va compter.
Allez, petite pause, vous répondrez après, Sophie, et on pourra commenter ce que vous venez de dire. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous, tellement de choses à dire, mais bon, on a 15 jours et aussi pour en parler avec vous. Peut-être, alors, je ne sais plus où on en était. Oui, vous vouliez dire quelque chose, Sophie. Oui, allez-y, Sophie.
Non, je disais que vous êtes tous en train de parler, quand même, bien que ça n'existe plus, de gauche, de droite, etc. Il y a un vrai problème sur la gauche, par exemple, Mélenchon. Mélenchon, il est clairement pour l'intégration de l'islam à Paris. Enfin, il a été même assez loin là-dessus. Je suis désolée. Et il a le même sentiment par rapport à ça. Le sentiment totalement opposé de Marine Le Pen. Donc, il y a un élément qui est l'immigration qui trouble complètement. Avant, c'était économique, la droite et la gauche. À gauche, on était pour le partage de tout, l'égalité à fond de communisme, et c'était très bien. Là, c'est le retour de l'ISF chez Marine Le Pen. Là, c'est pire que tout chez Mélenchon. Donc, c'est très embêtant parce que ces clivages n'ont plus de sens. Alors comment on va s'y retrouver?
C'était pas que économique avant, la différence entre la droite et la gauche. Pour moi, il y avait l'immigration aussi, ça a toujours été un sujet, alors peut-être moins important. Franchement, rappelez-vous Chirac, qui avait des formules malheureuses.
Formules malheureuses, mais qui passaient très bien.
Non, mais peut-être. Ça, c'est votre avis.
En tout cas, très bien.
Ça a toujours été un sujet, l'immigration, de différence entre la droite et la gauche. Moi, j'aimerais réagir à ce qui a été dit par Régis et par Alexis, quand même. Honnêtement, je trouve ça dramatique de penser des choses comme ça. En fait, il reste 15 jours, il y a une campagne présidentielle, il y a un niveau de détestation peut-être qui est énorme pour ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron, mais franchement, on peut refaire l'histoire. Rappelez-vous en 2016, Sarko, en l'occurrence. Non, mais il y avait un niveau de détestation énorme envers François Hollande. Il n'a même pas réussi à se représenter. En 2012, il y avait un niveau de détestation énorme envers Nicolas Sarkozy, il a fait 48%. Eh les amis, il reste un deuxième tour, il y a deux projets de société qui s'affrontent, c'est Marine Le Pen qui se présente quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est le Front National, enfin le Rassemblement National, c'est l'extrême droite. Qui aujourd'hui, on a quand même.
Il y a une musique différente qui est montée.
Je ne suis pas sûre que ce soit de l'extrême. Qu'est-ce que vous voulez dire par extrême droite?
Excusez-moi, elle a peut-être changé son discours, mais ça fait 10 ans. Elle voulait sortir de l'Europe. Elle ne veut plus sortir de l'Europe. On peut parler du projet.
Elle a changé.
D'accord, mais elle est quand même au second tour. Elle est face à Emmanuel Macron qui incarne, et Alexis le dit très bien, l'Europe et la non-souveraineté française, si vous voulez, même si moi je pense qu'elle reste quand même un petit peu. Donc il y a deux projets qui s'affrontent et il reste une campagne à mener. Il faut arrêter de dire que, après moi, c'est le chaos, Mélenchon n'est plus là, donc ça ne me concerne plus. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours. Voilà.
Alors, on a Cécile en ligne avec nous. Bonjour Cécile.
Bonjour Valérie. Bonjour à tout le monde.
Vous êtes avec nous sur Sud Radio, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Écoutez, est-ce qu'on peut parler de la France, s'il vous plaît?
Oui.
C'est possible? Voilà,
ça
serait bien. Parce que vous voyez, j'ai entendu moi très longtemps, après les élections, etc., on disait, oui, j'étais pas contente, si vous êtes pas content, vous n'avez qu'à vous présenter et puis on verra ce que vous faites. Et ben voilà, nous, on l'a fait. Moi, je suis... Alors, évidemment, vous comprenez par là que je vais vous parler un petit peu de Zemmour, si vous permettez, c'est quand même possible. Sûr. Voilà. Alors, en fait, nous, on n'était pas contents et on s'est présentés. Donc ça, on peut quand même nous reconnaître ça. Alors, effectivement, on est déçus, mais si on regarde les choses d'un autre point de vue, on est quand même parti de rien. on a mis sur le devant de la scène des mots, des concepts. On a fait de la politique. Hein, on n'a pas fait de la boutiquerie où on a vendu nos petits produits sur le comptoir. On a fait de la politique. Et là, je pense que Fabien Roussel en a fait aussi, Mélenchon en a fait aussi, mais on a fait de la politique. C'est-à-dire qu'on a parlé de quelque chose de plus grand que nous. On a parlé de quelque chose de plus loin que nous.
Comprenez le résultat alors d'Éric Zemmour?
Ils ne m'ont pas du tout étonné. Évidemment, je ne veux pas vous dire qu'on est content de 7%, mais on aurait fait plus, ça aurait été génial. Mais ce n'est pas grave. On a mis le pied dans la porte, on a mis quelque chose en place, on a un parti, et après, maintenant, et là je rejoins Alexis et Régis, franchement, le deuxième tour, on s'en fout complètement. Hein. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les législatives. Et là, il peut encore se passer quelque chose, ça va être très... On va être sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer, tout va bouger. Je trouve que maintenant...
Vous pensez que ce sera la même chose que vous élisiez Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? C'est bonnet blanc et blanc bonnet.
Absolument.
Attendez,
je vais vous dire. Ouais. Je vais vous dire. Absolument, pourquoi? Parce que Marine Le Pen, maintenant, est à poil, c'est-à-dire qu'elle a maintenant son paravent, son gilet pare-balles est tombé. D'ailleurs, ça a pas tardé, 20h02, tout le monde lui la Kalachnikov est ressortie. Donc, elle va s'en prendre plein la tronche. Pour l'instant, c'est nous qui avons fait le paratonnerre. Mmh. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Moi, j'accepte absolument les résultats d'hier. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais nous, il se passe autre chose. On est sur un autre projet. On est sur la France. Et on va se battre pour que, il se passe quelque chose, pour les législatives, au plus près des électeurs.
Et vous ne voterez pas pour le second tour?
Si. Moi, je vais voter Marine Le Pen pour la première fois de ma vie. Oui. Je pense être femme, mais absolument pas à la carrière d'être une femme d'État. D'ailleurs, je pense qu'elle passera pas. Mais c'est pas grave tout ça. Parce que tout va se recomposer. C'est pas grave. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on est sur quelque chose de beaucoup plus haut que ça. Ça nous intéresse pas. On va faire de la politique. Et on va aller travailler le terrain. On a dit les choses qui ont été dites. Alors, elles n'ont peut-être pas encore été acceptées, mais c'est dit, c'est pas grave, on a quand même commencé quelque chose. On ne peut pas nous le reprocher, parce que nous l'avons osé le dire. Mm. Voilà. Après, ça va être long, c'est quelque chose de très longue haleine, on n'a pas la même vision de la France, peut-être que les uns et les autres vont comprendre, d'accord, parce que là, il y a eu un vote d'intérêt. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, il y a encore beaucoup de boulot, nous on y est déjà, hein, on a déjà travaillé là-dessus, on est là-dessus, on verra, d'accord, il y aura des alliances, des choses, et là, rejoins
on verra. Alexis. Ouais. Vous rejoignez ce qu'Alexis disait.
Je suis en train de penser, on fait de la politique quand on voit Marion Maréchal Le Pen.
On vous a perdu, Cécile, merci d'avoir témoigné.
C'était Marion Maréchal Le Pen. Écoutez, je fais une parenthèse, parce que quand même, elle quitte effectivement Marine Le Pen, elle va rejoindre Zemmour, elle ne fait pas gagner une seule voix. Maintenant, on lui demande si elle va se présenter, elle va dire que non, parce que sa vie personnelle, elle n'a pas assez de temps. Je veux dire que si c'est ça, faire de la politique, pas très intéressant non plus.
Oui, un mot, Frédéric, sur ce que vient de dire Cécile.
Non, oui.
C'est quoi faire de la politique?
Mais oui, c'est une bonne question. Ouais. C'est une question philosophique. Ouais. Non, je peux comprendre qu'on renvoie deux ados, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pourtant, l'image est extrêmement différente. Puissance d'un côté pour Macron, bienveillance pour Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a une image qui s'est chiraquisée. Hein, notre enquête de samedi qu'on a dévoilée lors d'un événement IFOP fiducial pour Match TF1 et Sud Radio montrait que elle apparaissait très proche des gens, puisqu'Emmanuel Macron, capable de rassembler. En termes d'image, il y aura une vraie bataille Macron-Le Pen, et Marine Le Pen n'est pas perdante, loin de là. Il y a un chiffre qui m'a complètement frappé, 50% des Français pensent qu'elle a la stature présidentielle. Ce n'était que 27% après le débat catastrophique d'entre les deux tours. 53% pensent qu'elle est attachée aux valeurs démocratiques. Rappelez-vous le beau sondage barométrique de mes amis de la Sofresse depuis les années 80. Est-ce que le FN est un danger pour la démocratie? On avait du 75%, du 80% de oui. Alors maintenant, ça montre que attaquer seulement Marine Le Pen avec une réduction ad fascistum ou ad Hitlerum, ça ne suffira pas. Il faut être projet contre projet. Il faut de la même manière
avec les chiffres économiques.
Macron, autre que dire politique ultra-libérale quand on a versé tellement de milliards dans le cadre du quoi qu'il en coûte, ça frarie tout le monde.
Votre sondage, peut-être le rappeler, que vous avez réalisé hier.
Soir du vote, qu'on a commencé à 20h. C'est le premier sondage où l'inconnu qui qui faisait, vous en souvenez, Valérie, que systématiquement, j'étais très prudent sur le second tour, élevé. Les gens connaissaient les résultats, on leur a rappelé les résultats. On est sur 51-49, marge d'erreur, c'est 52-50,5 ou 50,5. On est sur un vrai match. C'est le second tour qui apparaît le plus serré depuis qu'il y a des sondages, soir du vote. Et puis, 51-49, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la logique classique pascoyenne, au premier tour on choisit, au second on élimine, d'élimination automatique du Front National, du RN, de ses candidats, ne marche pas.
Et Frédéric, est-ce qu'on n'a pas là aussi l'émergence du poids des personnalités des gens?
Oui,
parce que c'est ça.
Non, mais c'est
oui, mais là, par exemple, alors, je pense à Marine Le Pen, qui a, c'est sa personnalité qui a complètement fait évoluer les choses. Macron, c'est sa personnalité qui est contestée aujourd'hui. Et Mélenchon, bah oui. Donc, ouais.
Alex,
c'est pas non, ça qui va gagner?
Si, ben bien sûr, mais c'est l'élection présidentielle, comme Nicolas Sarkozy avait gagné à l'époque, comme François Hollande, à chaque fois, c'est un homme ou une femme, en tout cas, en l'occurrence, un homme, qui gagne l'élection présidentielle. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Cécile. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, que je le répète. Quand vous n'êtes pas content, vous pouvez vous présenter, et elle a raison. Ils se sont présentés, et ils ont fait un score, qui est un score et qui est le leur, et maintenant, ils pensent aux législatives. Mais moi, je le répète et je le martèle. Ok, il y a les législatives qui arrivent, mais il y a 15 jours. On fait quoi pendant 15 jours? On fait quoi pendant 15 jours? On fait semblant, on ferme les yeux, on se dit, on passe à autre chose, et puis on n'est pas d'accord. Et puis, bah, tant pis, voilà, c'est comme ça. La démocratie ne marche plus.
Qu'il faut se poser.
Voilà. Mais et on se la posera. Ou alors, dans 15 jours, il y aura des gens qui diront: ah, mais c'est ouf, c'est incroyable ce qui s'est passé. Elle est passée où il est passé. Moi, j'étais contre. Mais allez voter. Allez voter. Si vous n'êtes pas d'accord ni avec Marine Le Pen, vous allez voter Emmanuel Macron. Et l'inverse, vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron, vous allez voter Marine Le Pen. Mais il reste 15 jours.
Question: allez-y. Qu'est-ce qu'on fait après le second tour et avant les législatives, où il y a quand même un vrai. On a actuellement une actualité qui est dingue. Avec le président de la République, certes, il est réélu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on change de premier ministre?
On n'en est pas là pour l'instant. On en est à l'élection du second tour.
Bah oui.
Il faut l'attendre. Il faut l'attendre, mais c'est peut-être pas le jour aujourd'hui pour évoquer complètement ça.
Il
faut quand même un peu voir
ce qui se passe. Alors, Régis, on est plus proche de Marine Le Pen que
Régis.
Moi,
je veux pas qu'il y ait de malentendu quand j'entends Alex. Moi, je vais être mobilisé pour le second tour. Je vais être mobilisé. Je suis tout sauf Macron, hein, mais y compris que effectivement la campagne. Pourquoi il n'a pas fait campagne Macron? Par arrogance, évidemment, mais aussi parce que cette campagne qui a commencé très tôt, septembre-octobre quand même, avec Zemmour, avec la grossesse nerveuse électorale qu'on nous a vendue, enfin qu'on nous a vendue, qui s'est créée, c'était bien parce que les gens étaient d'accord. Toujours est-il que c'était pour désigner le challenger. Le challenger, il est là, et maintenant, effectivement, on rentre dans le dur. Et la victoire, alors qu'on pense aux législatives après, je pense que c'est plus important pour Marine Le Pen, parce que effectivement, on ne sait pas. Il y a un certain nombre d'idées qu'on peut avoir sur sa candidature. Étude du Cevipof qui montrait que 66% de ses mesures étaient des mesures à caractère social. Donc il y a une gauchisation de sa incontestable de sa démarche.
D'accord.
Si elle est élue, qu'est-ce qui va se passer? Elle est très seule. Elle est très seule.
Pas le mot droit.
Elle a un parti. Pas un parti de masse, elle aura nécessairement des alliances à faire, etc. Donc, effectivement, qu'on réfléchisse.
Elle veut faire un gouvernement d'union nationale.
Oui, et qu'on réfléchisse à ce qui pourra se passer après, ça me paraît logique. Macron, il n'y a pas à réfléchir, on sait ce qu'il va faire, on connaît sa politique, etc. Il y en a qui l'apprécient et qui la soutiennent, ce n'est pas mon cas. Donc, effectivement, je dirais que la campagne qui va se faire, on le sait bien, elle va se faire énormément avec des histoires de stupides,
d'anathèmes,
de bruits de bottes,
oui,
etc. D'anathèmes, c'est pas intéressant. Espérons que on va réussir à concentrer sur effectivement deux hypothèses extrêmement différentes, aux conséquences différentes. Et donc, oui, on va se bouger pendant ces 15 jours. C'est tout à fait essentiel. Là, l'élection présidentielle, c'est la mère de toutes les batailles électorales dans ce pays. Et alors, hop, je vais continuer à bombarder Frédéric de questions. C'est que je trouve que le taux de participation n'est pas si mauvais.
Oui.
Il n'est pas si mauvais. Il y a eu énormément d'augmentation d'inscription. Et on le craignait pire. Et quand on voit ce qui s'est passé dans les intermédiaires, où c'était un véritable effondrement, finalement, les Français, c'est quand même leur élection.
Populaire
en particulier.
Enfin, c'est le plus fort taux d'abstention, Frédéric, quand même, depuis 2002.
2002. Mais c'est vrai que Régis a tout à fait raison. Dans notre rolling, on s'attendait à pire. Même si on avait vu une montée de la participation, notre dernier dernier Rolling donne 74-26. Là, on est à 25%, c'est-à-dire notre estimation de 18h30. Un peu d'autocongratulation. Mais c'est vrai que 25%, c'est 12,5 millions d'électeurs. Mais par rapport au cycle abstentionniste catastrophique depuis 2017, je rappelle, hein, majorité d'abstention au municipal, deux tiers aux élections régionales, ça montre, comme nous dit Régis, que la présidentielle, ça reste notre élection matrice à partir de laquelle on croit encore que la politique peut changer les choses.
Juste un petit mot, parce qu'il y a quand même Macron, il a évité deux sujets pendant toute sa campagne. Et ces deux sujets, il va falloir qu'il l'aborde. Il a évité l'immigration et le pouvoir d'achat. Il n'a pas voulu s'en mêler, il n'en a pas parlé, alors que toute la campagne électorale était autour de ça.
Allez, petite pause, on continue avec vous, vos appels, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Débat avec vous jusqu'à midi, plusieurs appels sur Sud Radio, vous savez que vous avez la parole, parlons vrai, vous dites, vous donnez votre opinion sur les résultats de ce premier tour. Abdelhak est en ligne avec nous, bonjour Abdelhak.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat ?
Eh bien, j'aimerais en fait avoir l'humeur comme ça, à débattre comme vous le faites très bien, hein, depuis je vous écoute et tout. Moi, honnêtement, j'en pleurais hier, je ne vous le cache pas. 30% dans mon pays à l'extrême droite, 23% à l'extrême droite, 6% c'est des miliciens de l'extrême droite. J'ai une trouille, mais si vous saviez, c'est là le second tour, je crois que vous n'avez même pas assez peur quand vous en débattez. Le second tour, c'est les sondages dans le 51-49, avec 12% des personnes qui ne savent pas ce qu'ils feront au dernier moment. On l'a vu, c'est ce que n'avaient pas prévu les sondages avec l'augmentation chez Mélenchon notamment, où il est passé de 16 à 22, ça les sondages ne l'avaient pas vu, des gens qui seraient décidés au dernier moment. Voilà, donc moi j'aime tellement mon pays, j'en suis heureux, fier. Mais je crois qu'on ne pèse pas assez négativement la portée des extrêmes droites en France. Quoi. C'est ça qui me rend, ça me rend vraiment malade. Aujourd'hui, je suis en train de me dire, est-ce que je vais... Voilà, je suis né ici, j'aime mon pays, suis landais, français. Mais j'ai une putain de trouille dont vous ne parlez même pas assez, j'ai l'impression. Parce que demain, ça peut être dans 15 jours où on aura l'extrême droite dans l'un des plus hauts pays du monde. Et voilà, et on n'en parle pas, on vous en parlait avec une douceur... voilà, tant mieux pour vous.
Je vous entends et je peux comprendre, parce que dans le mot extrême droite, il y a tout ce que j'ai toujours haï. On a eu la période Le Pen-Père qui était très difficile. Mais très honnêtement, je ne le souhaite pas, mais est-ce que c'est toujours l'extrême droite? Je ne pense pas.
C'est là-dessus qu'ils vont. C'est là
elle est à gauche, c'est possible. Marine Le Pen est plutôt à gauche, sur plein de sujets.
Mais elle est plutôt très à droite sur d'autres sujets.
L'immigration, c'est la seule chose sur lesquelles
l'avortement, il y a un certain nombre de questions sociales sur lesquelles elle n'est pas à gauche.
Quand vous entendez Jordan Bardella, on lui a pas donné son avis, Jordan Bardella qui dit qu'il mettra fin à la viande halal ou cachère. Ça, c'est un sujet qui est
extrême. C'est pour ça que le président a dit qu'il fallait manger ce qu'on voulait.
Frédéric, est-ce qu'il y a effectivement un changement de profil du pays, 30% à l'extrême droite?
Oui, alors, je ne commente pas l'idée, le concept d'extrême droite qui crée de la polémique. Enfin, en tout cas, vote extrême, vote tribunicien, vote protestataire. En tout cas, quand on regarde la présidentielle de 2017, l'addition Dupont-Aignan-Le Pen faisait 26,5%. Là, l'addition Le Pen-Zemmour-Dupont-Aignan fait environ 32 ou 33%. Effectivement, c'est extrêmement important, même s'il y a des électeurs Zemmour ou Dupont-Aignan qui ne voteront pas pour Marine Le Pen, ça fait un bloc très fort, mais il n'apparaît pas ex abrupto, ex nihilo aujourd'hui. Ça fait maintenant de très nombreuses années que, parce qu'il y a une crise du résultat de la part des partis de gouvernement, on va entendre Nicolas Sarkozy mardi, peut-être François Hollande, mais la situation de leur parti, ça vient aussi de leur échec, le sentiment qu'ils n'ont pas changé d'avis. Quand on prend les scores de la droite depuis 2007, 31% pour Sarkozy, puis 27, puis 20, puis maintenant à peine 5, pareil pour le PS, c'est ça aussi qui explique que les Français soient tentés par un vote très protestataire qu'on peut qualifier d'extrême gauche ou d'extrême droite.
On a un auditeur qui me dit que tous les discours sur l'extrême droite sont hors sol, car à Perpignan, le maire était Rennes, et on n'a rien vu ni rien subi, il n'y a pas eu de changement majeur. On a un autre appel, Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors vous avez voté Mélenchon?
Ah oui, moi je suis un... un insoumis du départ. Bon, plusieurs choses. Je vais sûrement choquer un petit peu, mais moi, je vois pas de différence entre Macron et Le Pen, en fait. Macron a fait monter l'extrême droite comme jamais dans ce pays. Et les chiffres de Le Pen et Zemmour, ils sont là pour en attester. D'un côté, elle veut goûter les sarrasins hors des frontières. Je vais résumer un peu de façon humoristique, on va dire ça comme ça. Mais elle est surtout pas de gauche. Hein. Ça, je sais pas comment on peut dire ça sur votre plateau.
Économiquement.
Non plus. C'est une façade. Ça me fait penser, si vous voulez,
retour de l'ISF. Quand même.
Elle sert la soupe. Ça, c'est très très opportuniste. Son programme, il y a qu'à voir ce qu'elle vote en Europe et il y a qu'à voir comment elle est très conservatrice et à droite. Non. Ça, après, on peut pas dire que c'est pas ça la gauche. Hein. Heureusement.
Les retraites.
L'écologie. Macron, de son côté, il a éborgné, il a mutilé, il veut tuer au boulot tous ceux qui sont rien. Il y a un mépris. Moi, je note quand même qu'on n'interroge pas non plus le rôle des journalistes dans cette histoire, et notamment sur la campagne. Dans votre ligne à Sud Radio, moi, je vous ai interpellé là-dessus. Vous étiez très juste sur Macron à 28%. Par contre, vous étiez très, très loin sur Mélenchon. Et vous avez relayé une espèce de propagande comme ça qui voulait que Zemmour soit bien, bien plus au-dessus. Vous avez une part de responsabilité là-dessus. Hein.
On l'avait à 8 la semaine dernière.
Il a fait 7.
On l'avait à 8 la semaine dernière. On a donné les sondages à chaque fois qu'ils tombaient. On n'a jamais dit qu'il y avait un vote caché Zemmour. Et on n'a jamais. Enfin, je pense qu'ils ne se sont pas trop trompés. Et la dynamique, ce qu'expliquait, ce n'est pas moi qui vais parler à la place de Frédéric, mais il y avait une dynamique qui montait dans notre sondage quotidien pour Jean-Luc Mélenchon, qui était très clair. Tous les jours, il prenait entre 0,5, 1 point, 1 point et demi. Donc, il y avait une dynamique. Effectivement, il est allé au-delà parce qu'il y avait cette incertitude sur le vote. Je pourrais peut-être rentrer à l'IFOP.
Mais on n'a jamais, nous,
en tout cas, en ce qui nous concerne, on n'a jamais surreprésenté Éric Zemmour.
Oui, non, mais tout à fait. Je comprends la déception de monsieur, surtout que, voilà, et même Jean-Luc Mélenchon échoue au port du second tour comme en 2017, et là, de 400 ou 500 000 voix. Il y a une dynamique très forte qu'on a vue, qui a complètement été amplifiée, notamment dans les dernières heures de la campagne, puisque dans notre sondage jour du vote, on a un électeur sur cinq qui s'est déclaré le jour même. Et la veille. Et quand on regarde quel type d'électorat, l'électorat Roussel, Jadot, Hidalgo et les personnes qui envisageaient de ne pas voter. Tout ça explique très bien la surmobilisation, un vote populaire, un vote des banlieues, un vote des grandes villes. Quand on voit les scores de Jean-Luc Mélenchon à Lille, à Toulouse, dans des villes qui avant, à Nantes, qui votaient socialistes, il y a eu un véritable siphonnage qu'on n'a pas vu en fin de campagne, parce que je pense que ça n'existait pas vraiment.
Ouais. Merci à tous les quatre, cinq même, d'avoir été là ce matin avec nous. Pas facile pour nos camarades à distance, parce que le plateau prend un peu le dessus, mais on vous réinvitera. Hein. On aura l'occasion de redébattre. La journée continue, évidemment, avec les commentaires sur Sud Radio, André Bercoff, Les Vraies Voix, toute la journée. Et puis, on a 15 jours de débats et de commentaires, évidemment. Merci à vous, très bonne journée.